Kingamad.
Bonjour, je suis Camille Deslauriers. Bienvenue à l'émission Sous l'influence des livres, le volet Rimouski de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. Ce mois-ci, à l'émission, dans un premier temps, nous recevons Mme Linda Dion. Linda Dion qui est venue donner une conférence dans le cadre des conférences organisées pour les étudiants du baccalauréat en lettres et créations littéraires de l'UQAR. Conférence qui était aussi ouverte au grand public et qui a généreusement accepté de venir nous parler à l'émission de son dernier roman « La maîtresse » publié chez Amac Septentrion en 2013. Suivant notre tradition, l'émission d'aujourd'hui va se diviser en trois segments. Dans un deuxième temps, nous allons innover un peu et inviter Catherine Gosselin et Martin Robitaille à nous parler d'une table ronde sur la création littéraire et l'enseignement de la création littéraire, table ronde qui s'est tenue dans le cadre de l'Université d'été en lettres et création littéraire le 12 août dernier. Enfin, dans un troisième temps, nous allons reparler avec Linda Dion et, pour rester fidèle à ce qu'indique le titre de notre émission « Sous l'influence des livres », nous allons aborder ses lectures phares et l'influence de certains livres ou certains auteurs dans sa démarche d'écrivaine. En fin d'émission, nous aurons le plaisir d'entendre un extrait du roman « La maîtresse » et nous aurons la chance d'entendre l'auteur elle-même nous le lire. Alors, nous accueillons aujourd'hui à l'émission Mme Linda Dion. Bonjour Linda et bienvenue à l'émission.
Bonjour.
D'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de votre posture d'écrivaine, parce que vos livres semblent indiquer que vos personnages s'inspirent de près ou de loin de votre propre vie. Hein. Votre livre « La maîtresse », par exemple, met en scène une écrivaine en train d'écrire un livre, ce qui est votre cas. Une écrivaine qui enseigne aussi au secondaire, ce qui est aussi votre cas. Et en plus, à la page 103 de La maîtresse, vous revenez sur votre roman précédent, La dévorante. Donc là, le roman précédent de la narratrice, La dévorante. Et vous dites carrément au lecteur que les narratrices s'inspirent de vous parce qu'on a un passage qui dit « LD, Linda Dion, La dévorante ». Pouvez-vous nous parler de cette posture-là, de ce choix de donner la parole à une narratrice qui porte votre nom? Est-ce qu'on peut affirmer que la narratrice, c'est vous, en quelque part?
Bon, c'est bien qu'on commence par cette question. On va l'éclairer et la clairer aussi, cette question-là, si je peux me permettre. Parce que, le mot autofiction n'a pas été prononcé, mais j'entends derrière le sous-entendu. En fait, j'allais dire, ça ne me regarde pas ce que les gens vont se demander à la lecture, vont se demander est-ce que c'est la narratrice, c'est vraiment elle, puisqu'elle dit bon, toutes ces questions là de genre, j'ai même pas envie de répondre à la question parce que ça commence bien. Non, mais c'est on nous pose cette question là parce que pour moi, quand on écrit. On écrit toujours à partir de soi. Si on invente une fiction avec un personnage masculin, par exemple, l'histoire se déroule en Afghanistan, on va dire, ben, c'est pas son histoire, forcément, mais bon, on peut reprendre la fameuse phrase de Flaubert, Madame oui, Bovary, c'est moi. Donc, pour moi, ça me pose pas de problème. Pourquoi je le fais? Ben, parce que j'ai pas envie de faire autre chose, parce que c'est, je dis souvent, j'ai mis du temps à publier un premier roman, peut-être parce que je résistais à ça. J'avais l'impression que c'était pas assez, qu'il fallait que j'invente de toute pièce une histoire. Et j'en parle d'ailleurs dans La maîtresse.
Oui, parce que vous parlez beaucoup de l'écriture.
Oui, je parle de l'écriture parce que c'est aussi un roman qui aborde le complexe d'imposteur, là, parce que quand même. On n'a pas fait le résumé du roman, mais
non, on va le faire.
Oui, c'est ça, on va le faire. On va se garder des questions. Oui. Et puis, c'est ça. Moi, je pense que ça m'importe peu là
que ce soit de l'autofiction.
Exactement, parce que on est dedans. Et puis, c'est ça.
D'accord. Alors, j'aurais voulu vous demander si vous faites ou non de l'autofiction, mais je pense que la question n'est pas importante. L'important, c'est de faire de la littérature, c'est d'écrire.
Absolument, parce que est là la différence, je pense. C'est pas, on n'écrit pas pour raconter sa vie, mais on écrit à partir de sa vie.
On écrit à partir de soi, ouais. Et on peut être très loin de soi comme très près ouais. de soi, ou s'inspirer simplement de ses fêlures comme s'inspirer de sa vie. Une fois que c'est passé dans le récit, que c'est passé dans la littérature, ça devient ce que ça a à devenir. Là, ouais. On n'est pas contraint à la vérité ouais. de toute façon. J'aimerais aussi vous demander, parce qu'il y a quelque chose de très singulier dans votre roman, c'est le fait qu'il n'y a pas de ponctuation. Hein. Comment vous en êtes arrivé à privilégier cette structure-là qui est très fragmentée et à faire ce choix-là d'écrire deux romans en élaguant la ponctuation?
Encore là, quelque chose auquel j'ai pas réfléchi vraiment. Je suis dans un mode plus intuitif. Au moment de l'écriture du premier roman, La Dévorante, j'ai fait sauter la ponctuation parce que ce qui sortait était il y avait un désordre, il y avait un flot et puis
il y avait une urgence
oui, effectivement, et je l'ai fait sauter la ponctuation en me disant ben je la remettrai, c'est pas grave, l'important étant de dans le processus de création. Oui. Et bon, ma sœur qui est en visite chez moi cet été-là, j'ai fait un test avec elle, qui est une lectrice plutôt de littérature plus populaire. Mmh. Et puis, je lui ai fait lire les 50 premières pages. Et puis, elle me dit, bon, quand t'as fini ces 50 pages, j'ai dit, mais la suite, je dis, ben, c'est parce que je suis en train d'écrire. J'ai dit, et puis, ça t'a pas dérangé? Elle dit quoi?
Le fait qu'elle a pas,
je m'en suis même pas rendu compte. Okay. Donc, c'est sûr que, ben, les lecteurs me disent, les 4-5 premières pages, oups, on est étonnés parce que, bon, mais la phrase est là quand même. C'est juste que.
Oui, le rythme est là quand même. Ouais. On respire avec les paragraphes et tout.
C'est ça.
Le rythme se fait autrement, puis il y a un excellent travail sur le rythme aussi.
Le rythme, donc, ça m'a obligé. Oui, ça m'a obligé à faire ce travail-là, finalement.
Oui.
Un peu comme on fait en poésie quand on comment je pourrais dire, c'est la question du vers, hein, on est
oui.
bon. Alors je c'est pas de la poésie ce que je fais, il y a quand même il y a
non,
un ton
qu'il y a
poétique,
une histoire.
Oui.
Mais au fond, est-ce qu'on pourrait pas dire justement parce que dans La Dévorante, parce que là on parle de votre premier roman où c'est arrivé ce fait-là d'écrire sans ponctuation, il y a une certaine urgence, hein, la narratrice est
oui.
dans une quête amoureuse, elle veut rencontrer. Puis moi j'avais l'impression que ça traduisait cette urgence.
Oui, mais c'est ce que je croyais aussi. Donc quand j'ai commencé à écrire La Maîtresse, j'ai commencé avec la ponctuation en me disant ben je vais l'écrire comme ça, avec la ponctuation, parce que c'était accidentel, le premier. Puis au bout du compte, c'est passé le même phénomène. Puis je fais pas exprès, comme on dit. Puis là, je suis dans l'écriture du troisième.
Donc, c'est vraiment votre rythme intérieur.
Ben, on dirait, c'est ça.
Merci beaucoup.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même si.
Bon,
Bonjour, ici Catherine Gosselin. J'ai le grand plaisir de m'entretenir avec mon collègue Martin Robitaille. Martin Robitaille, bonjour.
Bonjour.
Martin, vous êtes professeur de littérature ici à l'Université du Québec à Rimouski. Vous êtes aussi écrivain, vous avez fait paraître deux romans déjà. Et vous êtes aussi un écrivain professeur. Vous enseignez aussi la création littéraire à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, c'est ce dont nous allons discuter ensemble aujourd'hui. Je me permets de dire quelques mots d'abord pour rappeler que l'enseignement de la création littéraire, c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire de l'université, au Québec comme ailleurs. L'écriture a longtemps été considérée comme étant l'expression du génie de l'écrivain, d'une vision particulière, et conséquemment comme quelque chose qui ne pouvait pas s'enseigner. Et donc, on se retrouvait devant cette situation un peu particulière, c'est-à-dire que tandis qu'on avait des écoles de beaux-arts et des écoles de musique où les jeunes artistes pouvaient se former, apprendre leur métier, l'enseignement de l'écriture, lui, paraissait incompatible avec la littérature. La littérature était conçue comme quelque chose qui ne pouvait pas s'enseigner. Aujourd'hui, vraiment, on peut dire que ce n'est plus le cas. La création littéraire s'enseigne maintenant dans les universités, dans les cégeps, dans les écoles secondaires, même. Et tout récemment, s'est tenue à l'Université du Québec à Rimouski une table ronde où il a été question de cet enseignement de la création littéraire. Mm-hmm. Vous y étiez, Martin Robitaille, et j'aimerais revenir avec vous sur quelques-uns des propos que vous avez tenus pendant cette table ronde. Vous avez posé d'entrée de jeu une distinction importante. Vous avez tenu à distinguer d'une part l'enseignement de la création et d'autre part l'enseignement de l'écriture. Donc vous dites que la création s'enseigne, mais que l'écriture, elle, ne s'enseigne pas. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors oui, oui, j'ai bien dit ça, malheureusement. En fait, ce que je tenais à préciser, c'est que, selon moi, la création et la créativité s'enseignent, oui. C'est beaucoup plus difficile dans le cas de l'écriture, je m'explique. Vous avez bien fait de le rappeler, la création littéraire s'enseigne depuis maintenant plusieurs dizaines d'années au Québec et un peu partout dans le monde. Ça a été long. Les Anglais ont été les premiers à l'admettre. Ce qu'on arrive à faire dans un atelier, c'est enseigner le crafting, l'artisanat.
D'accord.
La structuration du récit, des scènes, les dialogues, et surtout, on arrive à inculquer aux étudiants cette idée que on peut prendre des raccourcis pour mieux comprendre les ingrédients nécessaires lorsqu'on veut raconter une bonne histoire.
D'accord.
Ingrédients qui, peu importe si on veut faire du best-seller, de la paralittérature ou de la haute littérature, appelons-la comme on veut, passent nécessairement, en tout cas dans le genre romanesque, mais même le récit, la nouvelle, par des conflits, des personnages en interaction, etc.
Donc, un petit peu la cuisine, le côté artisanal.
La cuisine. On peut gagner beaucoup de temps à comprendre certaines recettes et à les pratiquer. L'écriture, au sens de la voix, du style, de l'univers particulier d'un auteur, et non pas au sens du français, de la grammaire, ça, à mon avis, c'est beaucoup plus difficile à enseigner, voire impossible. Pourquoi? Parce que chacun écrit à partir de sa sensibilité, de ses expériences passées, de l'univers de son enfance, de son adolescence, de son inconscient, de ses nœuds, de ses angoisses. Tout ce qui fait donc un univers unique. Je pense aussi que les bons écrivains ont en tête une sorte de petite musique intérieure qui fait que on sait si un texte fonctionne, coule, de source est bon ou non. Et c'est pas donné à tout le monde, je crois. Donc, c'est pour ça que je fais la distinction entre l'enseignement de la création et de la créativité d'une part et l'enseignement de l'écriture d'autre part, qui me paraît beaucoup plus difficile. Et j'aimerais simplement ajouter un point et terminer là-dessus. Et il faut pas oublier non plus autre chose, c'est que l'écriture est un matériau, mais contrairement à d'autres formes d'art, il faut d'abord que l'écrivain monte un matériau, se monte un matériau avant de pouvoir le travailler. Oui. Si on pense à la peinture, à la sculpture, à la photo, le matériau est en partie là déjà. Mais même pour la musique et la danse, hein, on peut s'inspirer des sonorités des instruments, du corps lui-même. Un écrivain doit monter des pages et des pages et des pages de matériaux avant de pouvoir retravailler ce matériau-là. Mmh. Et c'est plus difficile, ça aussi, je pense, à enseigner à des étudiants. qui veulent avoir tout de suite la bonne phrase, le bon punch ou la bonne, c'est ça, la bonne formule. Voilà la distinction que je tenais à apporter.
Merci beaucoup, Martin Robitaille, pour ces précisions qui nous ramènent au fondement de ce qu'est l'écriture. Ben, merci beaucoup.
Merci à vous.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs. Je vous ai morcelé mon cœur quand vous jouiez à la guerre. Moi, je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui égaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. C'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est arrivée trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Nous voilà de retour avec Linda Dion pour le troisième segment de notre émission. Alors Linda, maintenant, si on veut parler davantage de lecture, si vous deviez identifier deux ou trois auteurs marquants qui ont joué un grand rôle dans votre parcours de lectrice ou d'écrivaine, ou deux ou trois livres phares, quels seraient-ils?
Aïe, 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 quelle question! Bon. Ben, je dirais d'abord Anne Hébert, très certainement. J'ai lu Les Chambres de bois en Afrique. Et puis
en
ça,
Afrique,
oui,
les
en Afrique.
De bois.
Ouf, parce que j'étais en voyage là-bas. Et ça m'a marqué. Et puis après ça, ben, j'ai tout lu Anne Hébert. Et bon, c'est.
Donc vous avez dévoré Anne Hébert.
Oui, j'ai dévoré Anne Hébert. Et il y avait justement chez Anne Hébert un rythme et une économie de mots qui, moi, m'intéresse beaucoup. Je pense. Quand j'écris, je suis toujours en train de retrancher.
De retrancher.
Ouais. Et puis, il y a chez Anne Hébert aussi ce rythme-là.
Ah, tout à fait. Tout
alors,
à fait.
Ça me vient. Je dirais que c'est ma première grande influence. Bon, Virginia Woolf, Les Vagues. Alors là, chez Woolf, c'est toute l'art de la digression. Je trouve sa façon de repartir, d'aller, de venir comme Les Vagues. Alors, j'aime beaucoup l'écriture de Virginia Woolf. Et évidemment, Marguerite Duras. J'ai eu une période Marguerite Duras très importante. Et là, c'est plus la littérature, plus dans les thèmes, je pense, que ça m'a
d'accord.
Marqué au niveau du... Je trouve qu'elle fait une littérature scandaleuse et moi, ça m'a beaucoup intéressée. Faire sauter les interdits,
ouais.
Et tout ça, c'est bon. Et du côté, parce qu'il n'y a pas juste des femmes quand même, du côté québécois, il y a Jacques Poulin, il m'inspire énormément. Et du côté français, Christian Bobin. Ça semble un peu éclectique, mon affaire. Là. J'ai toutes sortes d'influences.
On voit que vous ouais. êtes une lectrice qui n'arrête jamais.
Non, ça, c'est sûr.
Justement, on note dans vos romans, et on pourrait en profiter peut-être pour résumer le roman La maîtresse, parce que c'est particulier, j'en ai parlé. On a une narratrice qui raconte le roman en train de s'écrire et on a une narratrice qui enseigne aussi. Pourriez-vous, en quelques mots, nous raconter un peu ce qui se passe dans La maîtresse?
Oui, comment je pourrais dire? On a une narratrice, donc, qui est professeure au secondaire et qui vit une année scolaire particulièrement difficile. Et l'élément central, un jour, elle rencontre dans un bar un de ses anciens étudiants qui a gardé un très, très mauvais souvenir d'elle, alors que c'est toujours l'inverse qui se produit. Et c'est ça, c'est Jeanne d'Arc qui tombe en bas de son cheval, puis qui dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai tout raté, ma vie est ratée. Et puis,
d'accord. Et il y a ça, dédoublement aussi, oui. Je pense, entre la femme qui enseigne et la femme qui veut écrire.
Donc, oui, la femme qui veut écrire. Et puis, bon, c'est sûr qu'il y a le dédoublement aussi dans le titre La maîtresse. Il y a l'amante aussi, voilà.
Alors, dans ce roman-là, on a aussi beaucoup d'intertextes, hein, si on revient à vos lectures. Donc, il y a des traces de lectures qui sont peut-être les vôtres, qui sont peut-être celles de la narratrice, mais c'est particulier parce qu'on a même, à un moment donné, des passages d'un poème d'Hélène Dorion.
Hein. Oui.
Alors, peut-être que vous pourriez nous parler de cette importance des intertextes dans votre démarche d'écriture, et ce serait ma dernière question pour ce segment.
Oui, dans La Dévorante, il y avait beaucoup de paroles de chansons.
Mm-hmm.
Hein, il y en avait beaucoup, il y en avait à tout instant. Et puis, mais dans La maîtresse, il y a deux chansons qui vont être très importantes, qui vont autour desquelles on va vivre un point tournant dans le roman. Mais sinon, j'ai parlé d'Annie Ernaux, j'ai parlé. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont convoqués là à travers le récit. Parce que on a une narratrice, oui, qui écrit, mais on a aussi une narratrice qui enseigne.
Oui.
Et puis, je pense que et la lecture est au cœur de sa vie. Donc, ça ne peut pas faire autrement. Oui, exactement, oui.
D'accord. Ben, c'est fascinant. Merci beaucoup, Linda Dion.
Ça m'a fait plaisir. Je n'ai pas osé entrer par la porte centrale de l'école ce matin, de peur d'avoir à croiser le groupe de fumeurs qui squattent le trottoir en avant. V n'est pas là, mais ses copines, oui. Je manque de courage. Je suis à découvert, morte de trouille, pourchassée, poursuivie par la bande à Como qui a juré de me faire payer. Ma jeune collègue est aux petits soins avec moi. Plus rien ne va. Je suis muselée, contaminée par cette idée que tous les élèves me détestent. Je longe les murs des corridors, attends qu'ils soient déserts pour circuler. Il n'y a que dans ma classe que j'arrive à respirer vraiment. C'est mon château fort. Sitôt entrée au 20-26, je retrouve mes pouvoirs qui n'ont rien de magique. Je revais ma cape plombée de maîtresse. Assoyez-vous, la cloche est sonnée. Je les préviens. Je ne suis pas d'humeur à rire, j'ai la patience dans les talons, tenez-vous tranquille. Ils se tiennent loin, font ce qu'il y a à faire, ils savent, c'est sûr. Même W, l'élève qui parle, me fuit à la fin du cours quand la classe se vide. Je reste enfermée à l'intérieur, barricadée. Je ne veux pas être revue comme ça, effondrée. Je n'ai pas aimé, mais l'adjointe a raison. Je suis en train de changer. Je ne suis plus la même. Elle a poussé l'audace jusque-là. Tu ne penses pas que tu devrais consulter? L'adjointe est elle-même une ex-collègue qui n'a pas oublié la classe de français. Son bureau est près de la sortie que j'emprunte en quittant l'école. Quand la journée était difficile et qu'elle est encore là et qu'il n'y a personne et qu'elle n'est pas au téléphone, je dépose mon gros sac sur le seuil et je m'installe. « As-tu 2 minutes? » Débute alors la séance de défoulement. L'adjointe sourit, questionne, encourage la maîtresse. « T'es la meilleure, arrête donc de t'en faire. » Mais pas cette fois, plus maintenant. Pour calmer le jeu, elle avait été d'accord. Il valait mieux éloigner T, dont l'insolence et l'entêtement avaient fini par venir à bout de ma patience. La partie était perdue d'avance avec celle-là. Le nouvel épisode avec V allonge la liste des incidents survenus depuis le retour des fêtes. Ça brasse avec tes filles cette année, tu trouves pas? Son commentaire n'a rien d'innocent. Je le reçois dans le ventre. pourquoi tu dis ça? Il me semble que me taire, c'est mieux. Rester en contrôle, éviter le débordement. La vague qui se forme au large est démesurée. Elle a la hauteur d'un immeuble de 10 étages quand elle se jette sur mes côtes.
Alors, merci beaucoup, Aline Dadion. J'aimerais également remercier mes collaborateurs qui sont parfois aussi mes co-animateurs, Claude Lacharité, Martin Robitaillé, Catherine Gosselin. Merci également à Jean-Luc Théberge à la technique. Je vous rappelle que l'émission Sous l'influence des livres a été enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain.